Fréquence protestante, le Midi Magazine, Clarisse Ehrenschmidt.
Bonjour, nous voici rendus à l'émission Entre les langues de Clarisse Ehrenschmidt et nous recevons aujourd'hui Didier Ottaviani. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences à l'École normale supérieure de Lyon, ancien élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé et docteur en philosophie. Votre texte de doctorat portait sur la philosophie de Dante, étudiant le statut métaphysique de la lumière, et publié sous le titre « La philosophie de la lumière chez Dante ». Mais ce qui m'a amené vers vous, c'est le cadeau que m'a fait un ami qui s'appelle Albin Luteau et que je remercie ici, de votre petit livre « Dante, l'esprit pèlerin », paru récemment, en 2016. C'est un petit livre de 160 pages, absolument admirable. Je ne connaissais rien à Dante, j'ai lu ce livre avec passion et du coup je suis tombée dans le chaudron de Dante lui-même, avant d'avoir été dans le chaudron de Didier Ottaviani. Je recommande ce livre, édité aux éditions Point, donc en octobre 2016, et vendu pour la modique somme de 7,30 €. Donc vraiment, allez-y. C'est une introduction formidable à Dante, et on ne fait pas du tout que de la philosophie, mais on fait de la philosophie, et aussi beaucoup de choses sur les langues, les héritages dont Dante a profité, et sur la poésie. Et nous allons nous consacrer plutôt aux affaires de langue. Alors Didier, éclairez-nous. À l'époque intellectuelle, de la formation intellectuelle de Dante, où en étaient les langues parlées et écrites en Italie ?
Alors, il y a d'abord forcément la langue universitaire classique, c'est-à-dire le latin, dans la mesure où dès que l'on va faire de la théorie, dès qu'on va faire des textes qui sont scientifiques, on va écrire en latin, et c'est la langue aussi, bien évidemment, de la théologie. On la parle aussi, même si c'est surtout éventuellement plutôt une langue écrite. Alors, en Italie, c'est très spécifique, dans la mesure où on a toute une série de vernaculaires complètement différents, du nord au sud de l'Italie, qui sont des langues italiques, mais qui sont des langues en réalité très différentes, qui sont des vulgaires, qui ne correspondent pas d'une cité à une autre. Il n'y a pas du tout d'unification de la langue italienne. D'ailleurs, c'est un des rêves de Dante, c'est de réussir à chercher un petit peu tous les poètes qui, dans chaque ville, ont hissé leur langue locale au plus de perfection possible. C'est-à-dire à une forme de langage qui soit ce qu'il quête, ce qu'il appelle le vulgaire illustre, quelque chose qui serait une sorte de langue sinon parfaite, du moins une langue mieux structurée que le simple parler des communes. Et il est très déçu puisque finalement les langues parlées sont, il trouve, pas très bien parlées et pas très organisées et pas très structurées. Donc il y a tout à faire au niveau de la langue. Et puis il y a aussi évidemment l'influence d'autres langues, comme le provençal par exemple, qui va passer par le biais des troubadours, qui va passer par tout un héritage culturel et qui va pouvoir être lu, parlé, voire écrit. On sait que le maître de Dante, Brunetto Latini, a écrit par exemple son livre du trésor en français.
C'est en français de langue d'oïl alors.
Oui, voilà. Et donc ce qui est étrange pour l'époque, vu que c'était un Italien, mais il était tout à fait capable d'écrire dans ce français et donc du coup, cette langue qui n'était pas la langue vernaculaire locale, mais que les gens pouvaient maîtriser. Et Dante va aussi rimer en provençal quelques
Il y fait allusion vers. Dans ces textes.
Voilà.
Et alors, comme l'Italie du Nord avait été occupée par, après les grandes invasions, par des gens qui étaient d'origine saxonne, il y a quand même une perméabilité des langues latines par un vocabulaire germanique, disons, non, pas du tout. Dans le lombard, par exemple.
Oui, il peut y avoir une perméabilité dans la mesure où il y a une proximité extrêmement importante, sachant que c'est très rare. Alors, il faut distinguer évidemment les langues parlées, chaque parler locaux qui vont être finalement des sortes de patois, des langues écrites. En réalité, à part les troubadours et quelques poètes, on écrit peu en langue vernaculaire.
C'est ça.
Notamment pour l'entreprise qui m'intéresse chez Dante plus particulièrement, c'est-à-dire que la philosophie ne peut pas être écrite en langue vernaculaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vulgaire, tout simplement parce que la philosophie a été forgée, ce sont des concepts, ils ont été forgés en grec d'abord, mais en latin ensuite, puisque très peu de gens parlent ou lisent le grec, donc tout est accessible uniquement en latin. Et donc, de ce fait, les concepts sont des concepts latins. Et donc, il est pratiquement impossible d'écrire quelque chose qui ne soit pas du latin lorsqu'on fait du théorique. D'où le fait que l'italien de Dante, quand il écrit en italien des textes de philosophie pure, comme dans son Convivio, en réalité ont une structure qui est très proche du latin et il se contente très souvent de traduire en italien des concepts latins.
Oui, il transpose.
Il transpose en réalité, tout simplement, mais la pensée est une pensée d'origine latine.
Je vous remercie, mais alors, pour un Français qui ne savait rien, je sais un peu plus maintenant, pour nous, l'idée est que Dante est le fondateur de la langue littéraire à partir du parler local de Florence.
Oui.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'italien aujourd'hui, c'est plutôt du florentin.
D'accord. Et lui-même pouvait s'exprimer, non seulement en latin bien sûr, mais il pouvait, disons, se débrouiller avec des gens qui vivaient à Venise, à Rome.
Oui, puisqu'il était ambassadeur.
Oui, justement.
Donc il
passait d'un parler italique de l'un à l'autre quand même.
Oui, je pense que... Alors, on ne sait pas grand-chose en fait sur la vie de Dante, à part ce que lui-même en raconte, mais étant donné son activité d'ambassadeur, étant donné les voyages qu'il a fait dans tout le nord de l'Italie, on peut supposer qu'il ait, sinon un multilinguisme parfait dans tous les types d'italiens, du moins une capacité de compréhension des différents vulgaires locaux, qui sont des langues finalement assez proches, de toute manière.
Oui, ça, on le perçoit un peu, mais comme on ne sait pas grand-chose pour finir quand on est français, à moins de travailler sur ces choses-là, de l'opposition entre les cités, de la conflictualité, donc on a tendance à imaginer quand même une unité qui n'existait pas. Parce qu'en France, la situation est complètement différente, puisqu'il y a une masse de langues qui ne sont pas de la même origine et de la même famille, n'est-ce pas? Le breton qui est celtique, l'alsacien qui est germanique, le basque qui est encore complètement autre chose, etc. Donc, eux, ils ont une unité relative du point de vue de l'origine, mais une grande différence dans les réalisations.
Oui, alors parce que la situation italienne est complètement différente de ce qui se passe dans le reste de l'Europe, puisque effectivement, on a un système monarchique en France, on a le Saint-Empire romain germanique au nord, au sud, on a les États pontificaux, mais le cas du nord de l'Italie, c'est une multitude de petites cités qui sont toutes autonomes, et qui en plus fonctionnent selon des structures politiques très particulières, puisque ce sont des sociétés communales. Donc avec des systèmes d'élections, avec des systèmes variés en fonction des cités, très différents. Chaque cité a son système électif particulier, avec des électeurs, des sortes de démocratie censitaire, on pourrait dire, parce que c'est en fonction des impôts qu'on vote. Donc chaque cité va avoir une identité extrêmement forte à l'intérieur de ses murs, dans la mesure où elle va avoir un système politique complètement différent de ses voisins. En plus, c'est une caractéristique des cités italiennes, ils se... détestent les uns les autres. C'est-à-dire qu'à très peu de distance, les Siennois et les Florentins se haïssent. Il y a beaucoup de guerres commerciales, énormément de conflits commerciaux qui dégénèrent en guerre. C'est aussi ça que Dante, quand il est ambassadeur, essaye de faire disparaître. Et donc, on a une société sous tension, ce qui est très problématique parce que l'Italie est assez riche. Ces villes sont assez riches. Leur caractéristique, c'est que elles ont une force économique importante, mais n'ont pas d'armée. Et ce sont des petites structures. Donc le risque, c'est d'être soit sous l'emprise du pape, soit sous l'emprise du roi de France, soit sous l'emprise du Saint-Empire romain germanique. Alors, Dante rêve d'un empereur. Mais en réalité, ces trois grandes puissances qui sont autour d'eux, finalement, s'équilibrent d'une certaine manière. Et personne n'ose trop mettre le pied en Italie de peur d'avoir une autre grande puissance qui va réagir. Et ça donnera d'ailleurs la Renaissance, c'est-à-dire et l'idée de la diplomatie. C'est-à-dire que ce qui va sauver les cités italiennes, c'est l'activité diplomatique. C'est le fait qu'elles vont réussir, sans armée, en équilibrant les pouvoirs et en développant des systèmes d'ambassades, etc., à survivre.
Et en amont de cette activité diplomatique qu'on leur doit en partie quand même, il y a justement le fait que le florentin devient, la langue parlée à Florence devient une langue que dans la diplomatie on connaît, tout le monde connaît plus ou moins. Donc
oui, parce que ça va être la langue qui finalement va se forger, dans laquelle vont se faire les principaux écrits, et c'est elle qui va devenir majoritaire, même s'il y a toujours d'autres langues qui perdurent.
Oui, je suis allée à Naples, j'ai écouté dans les quartiers populaires, je n'ai rien compris.
Ah non, mais le vénitien n'a rien à voir avec le napolitain.
Rien.
C'est vraiment
univers
complètement différents.
La situation perdure, on peut s'en féliciter au fond. Bon, alors écoutez, nous allons commencer par écouter Ecco la Primavera, un morceau d'un musicien bien connu, Francesco Landini, qui est né après la mort de Dante en 1335 et qui a vécu longtemps jusqu'en 1397 et qui est un des musiciens qui illustre l'Ars Nova. Et ici, un morceau joué à la zampogna, qui est une sorte de cornemuse italienne, qui était fort utilisée à cette période-là. Cher Didier Ottaviani, à lire un petit passage de la Vita Nova. 9 mois déjà depuis ma naissance, le ciel de la lumière était revenu presque vers le même point de sa révolution, quand à mes yeux apparut pour la première fois la glorieuse dame de mes pensées, que nombre de gens nommaient Béatrice, sans savoir ce que signifiait son nom. Elle avait déjà vécu en ce monde le temps que met les étoiles à se mouvoir vers l'Orient de la deuxième partie d'un degré, de sorte qu'elle m'apparut vers le début de sa 9e année et que je la vis vers la fin de ma 9e année. Elle m'apparut revêtue d'une très noble couleur, humble et honnête, rouge sang, sainte et ornée comme il convenait à son très jeune âge. À ce moment, je dis en vérité que l'esprit de la vue, qui demeure en la chambre la plus secrète du cœur, commença à trembler si fort qu'il se manifesta horriblement en mes plus petites veines. En tremblant, il dit ces paroles « Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi ». Voici un Dieu plus puissant que moi, qui venant me dominera. Cher Didier Ottaviani, comment parler de Béatrice ?
Alors, comment mieux que Dante parler de Béatrice ? Ce serait assez difficile. Alors, il y a toute une... D'abord, c'est la description, effectivement, de cette rencontre qui est quelque chose qui est, évidemment, la réécriture de la rencontre par un Dante qui est beaucoup plus âgé pour une Béatrice qui est déjà morte à l'époque où il écrit, puisqu'il s'agit de la Vita Nova. Il s'agit donc de ce qu'il appelle le livre de la mémoire, où il doit réécrire en fait toute son expérience passée pour tenter de la comprendre. Et il n'arrivera pas d'ailleurs à la comprendre. Donc il cherche à expliquer ce que c'est que Béatrice, pour lui. Ce n'est pas seulement Bice Portinari qui est la jeune fille qu'il voit, qui est une voisine. C'est aussi justement la béatitude. Et c'est la première interprétation qu'il va donner, puisqu'on ne sait pas encore ce que signifie véritablement son nom. Et lui-même va écrire toute la Vita Nova et à la fin dira qu'il faut qu'il s'arrête parce qu'il doit être capable d'améliorer sa capacité de dire les choses parce qu'il n'a pas chanté Béatrice exactement comme elle le mériterait. Et toute son élaboration de toute sa pensée puis de toute sa poétique va être d'essayer de pouvoir dire Béatrice à la hauteur, justement, de cette béatitude, c'est-à-dire au-delà de la simple jeune fille qu'il a rencontrée et qui était l'objet de son amour terrestre. Ce qui fait qu'il y a plusieurs Béatrices, en fait, chez Dante. Il y a cette Béatrice poétique, qui est finalement la dame, d'une certaine manière, de l'amour courtois, qui chante le poète, qui est sa muse. Donc, qui est plutôt une Béatrice terrestre, qui est une Béatrice d'un amour... disons, sinon charnel, du moins limité à une certaine corporéité et à la poésie. Mais ensuite, une fois qu'il a, disons, quitté ses premiers amours, il va se tourner vers l'idée d'une Béatrice qui serait plutôt une forme de béatitude. Et donc il va se tourner vers l'idée de la sagesse. Il va se tourner vers l'idée de cette philosophie qu'il représente comme une femme, et qu'il va essayer de dire, là aussi, selon le vocabulaire de la philosophie. On peut penser que la partie philosophique de son œuvre est aussi un dire de Béatrice, mais un dire différent, où Béatrice, cette fois-ci, est la béatitude en tant que sagesse philosophique. Puis il y a un troisième temps, qui est le temps de la comédie, c'est-à-dire cette Béatrice céleste, qui est la plus haute dimension de Béatrice, qui est la Béatrice transfigurée, vivant au paradis, dans... la lumière des anges, et qui va appeler Dante à la rejoindre et qui va l'amener à faire ce long voyage de l'enfer au purgatoire jusqu'à elle, et qui est finalement la signification la plus haute de Béatrice, une Béatrice sinon simple figure de la théologie, du moins figure d'une perfection et d'une béatitude qui est la plus haute des béatitudes, c'est-à-dire la béatitude de la vision béatifique céleste.
Bien. Alors, est-ce qu'il y a un jeu de mots entre béatitude et Béatrice ou bien...
Alors, sans doute, puisque les deux sont évidemment très proches.
Ben, c'est Beatus en latin.
Voilà, donc forcément, c'est quelque chose qui fait que Béatrice présente. N'a presque naturellement voilà, une béatitude.
Alors, quand on lit la Vita Nova, donc, on est très surpris par la structure du texte, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a on imagine, quand on lit spontanément, que ça va être de la poésie. Ben, en fait, c'est un mélange de prose et de poésie. Beaucoup de prose et des sonnets, des ballades et des chansons, mais pour finir, un peu plus de prose en quantité. Et cette prose consiste en espèce de double commentaire, introductif et ensuite analytique. Et puis il raconte même parfois comment son ami Guido Cavalcanti a reçu le poème, ou comment la société florentine reçoit son œuvre. En fait, c'est très curieux. C'est une construction complexe. Et personnellement, je ne sais pas à quoi me raccrocher pour comprendre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
Alors, il y a effectivement une tradition qui arrive par Boès et qui va inspirer Dante aussi pour son convive, qui est, disons, l'idée que l'on a des poèmes un petit peu théoriques et on a une structure narrative entre-temps, entre les poèmes, qui n'est pas forcément un commentaire du poème chez Boès d'ailleurs, qui est simplement une expression de la vie qu'il est en train de vivre. Boès raconte, il est dans sa prison, il raconte la visite justement d'une dame philosophique.
On va juste dater Boès, si vous permettez.
C'est vers le 4e siècle, donc c'est... mais bon, c'est un auteur qui va avoir une célébrité et une... disons, une prégnance dans le monde latin qui va être véritablement considérable, vu que c'est un des introducteurs d'Aristote en latin. Et sa Consolation de la philosophie est un livre qui va beaucoup marquer Dante. Et donc, on trouve quelque chose, effectivement, dans la Vita Nova, qui est quelque chose de radicalement différent par rapport à ce qu'il faisait lui-même avant, de textes qu'on trouve, par exemple, dans les rimes, mais qui sont de simples poésies. C'est-à-dire que le Dante poète a expérimenté quelque chose d'autre avec la Vita Nova, c'est-à-dire une écriture qui n'est pas seulement la construction poétique, qui n'est pas seulement le chant, qui n'est pas seulement les canzones. C'est une narration. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui relève d'une écriture de soi, où on va présenter ses ressentis, quelque chose qui n'est pas véritablement accessible par la forme poétique, qui doit passer par une forme plus prosaïque, qui permette d'expliquer des choses un petit peu différentes de ce que le côté concentré de la poésie permettrait d'expliquer. Ce qui fait que c'est cette double structure, et je pense que Dante a voulu, bien sûr, montrer son œuvre poétique, montrer ce qu'il faisait en tant que poète, puisque c'est un poète à l'origine, mais il a voulu aussi aller vers autre chose, c'est-à-dire la possibilité d'une narration de l'expérience personnelle. Et cette expérience personnelle, c'est plutôt la dimension prosaïque qui peut la raconter.
Il y a des moments où j'ai pensé à saint Augustin, aux Confessions.
Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute une tradition, en réalité, dans la tradition chrétienne, que l'on trouve chez Augustin, que l'on trouve chez Boèce, mais que l'on trouve chez bien d'autres, dans la mystique aussi, avec le fait que on raconte des expériences vécues sous la forme d'une narration. Donc on est à la limite entre la philosophie, donc Dante commence un petit peu à pratiquer la philosophie, mais il en est à ses tout débuts. Il n'a pas encore véritablement beaucoup étudié la philosophie à ce moment-là. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles il s'arrête et qu'il va se consacrer plus pleinement à l'activité philosophique. Donc il hérite effectivement de toute une série d'auteurs qui vont raconter des expériences personnelles, qui vont raconter une confession de soi, qui est un style. Alors évidemment, je parlais de Boèce. Pourquoi Boèce ? Parce que Boèce récupère en fait toute une autre série de traditions, celle de la Consolatio, par exemple. Donc on retrouve tout un héritage culturel latin chez Boèce, qui fait qu'il est un peu le passeur de tout un ensemble d'écritures qui sont des écritures dans lesquelles on va représenter un petit peu un individu se questionnant sur lui-même. Que ce soit chez Sénèque, que ce soit chez...
Oui,
donc voilà,
sûr.
Donc Boèce, c'est un petit peu... C'est pas l'unique source, mais...
Donc Dante fait une construction complexe entre la poésie et cet héritage à la fois d'écriture autobiographique, en quelque sorte, et réflexive.
Voilà.
Quelque chose
ce qui fait que
Dante... qui m'a beaucoup surprise.
Mais Dante est un auteur, c'est pour ça aussi que, il suscite autant de travaux et autant de fascination, en Italie bien sûr, mais ailleurs aussi, c'est tout simplement parce que avec Dante, on a une sorte de véritable passeur de culture, de toute la culture traditionnelle latine et aussi italienne, pour la poétique et des choses comme ça, vers la Renaissance. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui synthétise tout un Occident culturel en une seule œuvre. Et c'est ça qui est assez fascinant, qui est autant de choses dans une unique œuvre.
Et quelle œuvre ?
Et quelle œuvre, oui.
Nous allons entendre maintenant un passage lu de Dante, et un passage de la Vita Nova, l'avant-dernier sonnet.
Questo sonetto non divido, però che assai lo manifesta la sua ragione. De peregrini che pensosi andate, forse di cosa che non v'è presente venite voi da sì lontana gente, come alla vista voi ne dimostrate, che non piangete quando voi passate per lo suo mezzo la città dolente, come quelle persone che niente par che intendesser la sua gravitate. Se voi restaste per volerlo audire, certo lo cor dei sospiri mi dice che lagrimando n'uscireste pui. Ella ha perduta la sua Beatrice, e le parole com di lei può dire hanno vertù di far piangere altrui.
Eh bien voilà, dans ce dernier sonnet, il y a une première phrase introductive qui dit ce qu'il va raconter, et c'est dans ce sonnet que Béatrice est nommée comme un nom commun, et non plus comme une personne. La cité a perdu sa Béatrice. Eh bien, je me souviens, cher Didier Octaviani, que ma mère disait cette phrase. La ville a perdu sa Béatrice. Je crois qu'elle n'avait jamais lu Dante. Mais c'était passé dans certains... comme une phrase, pas seulement en Italie, également en français.
Oui, c'est Béatrice est devenue véritablement le nom commun oui. de la femme absolue, de la oui. quête absolue, disons du symbole féminin que l'on quête. Voilà. Voilà. On le dit toujours, enfin je ne sais pas si on le dit beaucoup aujourd'hui encore, mais
c'est
chercher
arrivé.
Sa Béatrice, c'est quelque chose, c'est... une expression qui...
Oui. Oui, qui a été là, que j'ai entendu.
Moi,
et en lisant
aussi.
Ce sonnet, je me suis dit, mon Dieu, ça vient de là, vraiment. Quoi. Donc Dante est arrivé jusqu'à mon éducation de petite fille.
Bah, Dante est un auteur européen, c'est-à-dire oui, c'est qu'il ça. A inspiré énormément de peintres, graveurs, mais aussi auteurs, que ce soit de la comédie humaine, ou, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la culture par toute une série d'auteurs. Dans les auteurs français, par exemple, beaucoup ont lu Dante, beaucoup sont rentrés dans cette pensée et on en transmis certains éléments, même sans forcément le citer, même sans forcément y faire référence. C'est-à-dire qu'il y a un passage entre cette culture italienne et la culture française, mais aussi la culture allemande ou espagnole, qui fait un espèce de foyer européen d'origine dantesque. Dans lequel tout le monde pioche, finalement, sans forcément faire référence à Dante directement, parce qu'il est devenu presque...
Un bien commun.
Un bien commun européen. Je pense que c'est vraiment un auteur européen par excellence.
Eh bien, écoutez, nous avons donc besoin d'en savoir un peu plus sur lui. Que pouvez-vous nous raconter ?
Alors, beaucoup de choses. La vie de Dante oui. est très compliquée, puisque Dante a d'abord été... il a occupé des positions politiques assez importantes à Florence. C'est quelqu'un qui vient d'une famille, on suppose, relativement aisée, puisqu'il pouvait se permettre de ne pas travailler et de faire de la poésie. Donc, sa famille était probablement relativement aisée. Il vient d'une petite noblesse. Et puis, bon, il a fait des choix qui étaient des choix plutôt anti-pontificaux, plutôt pro-impériaux, dans les querelles qui entre les guelfes, les gibelins, puis les guelfes blancs et les guelfes noirs à Florence. Malheureusement, il s'est retrouvé du mauvais côté et donc a été exilé de Florence. Et finalement, Dante présente un rapport assez étrange avec Florence, c'est-à-dire que c'est la ville de son cœur, mais il la présente en permanence comme un espèce d'abcès pourri, plein de pus, ce sont ses mots. C'est pour ça qu'il dit « je suis florentin de cœur, mais non de mœurs », de naissance, mais non de mœurs, pardon, et de cœur aussi, d'une certaine manière. Mais les mœurs florentines, pour lui, ont complètement été dévoyées, et Florence est devenue une sorte de, disons, de cité mécréante d'une certaine manière. Alors il explique à cause de gains trop rapides, enfin visiblement c'est l'enrichissement économique qui a dû poser des problèmes selon lui.
Il faut dire qu'il est dans la période, n'est-ce pas ? Il naît en 1265, il meurt en 1321, c'est-à-dire vraiment l'explosion du commerce.
Ah,
quand
bien
même.
Sûr, oui, c'est la période de la grande richesse sa cité italienne. Alors donc lui, il va être exilé, il va se retrouver à errer un petit peu dans tout le nord de l'Italie, d'où ce côté pèlerin, c'est-à-dire que c'est un errant avant tout, qui ne reverra jamais Florence. Il est véritablement un penseur de l'exil. Il est en décalage par rapport à ce qui pour lui est son origine véritable, c'est-à-dire cette ville qu'il a reniée et dans laquelle il ne pourra pas retourner.
Mais au fond, après, il installe sa maison dans l'écriture, d'une certaine façon.
Oui, c'est-à-dire que la Florence, il la traîne avec lui. C'est-à-dire que sa Florence, cette espèce de culture, cette espèce de cercle... Alors, il va progressivement devenir assez connu dans les différents endroits, pour finir à Ravenne, où il va même avoir un petit cénacle de... disons littéraire, dans lequel il va œuvrer. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir véritablement une certaine notoriété, et il va être avant tout un auteur. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est sa maison, c'est son écriture, c'est ses œuvres qui vont être l'endroit où il demeure véritablement, puisque toutes les villes dans lesquelles il vit sont finalement des villes de transit.
Et oui. Et c'est son caractère d'exilé qui en fait un Européen, à la limite.
Mais d'une certaine manière, c'est ça. C'est-à-dire que n'étant pas rattaché à une terre, à une nation, autrement que par la naissance et, disons, le cœur, eh bien, il est un petit peu de toutes les nations, finalement.
Alors, nous allons passer un petit moment sur son texte écrit en latin, De Vulgari Eloquentia, et qu'il n'a jamais terminé. Il s'agit d'un texte qui défend les langues vernaculaires, de l'éloquence en langue vulgaire. Mais alors, on est un peu surpris qu'il écrive ce texte-là en latin alors qu'il défend les langues vernaculaires. Donc, j'imagine qu'en fait, c'est la seule position qu'il pouvait faire, mais veuillez nous expliquer pourquoi.
Alors, parce que s'il faut faire une défense théorique, nécessairement, il faut la faire en latin.
Voilà.
Sinon,
c'est
ça
une question de
Bien sûr, c'est une question de méthodologie, c'est-à-dire que le risque, quand on écrit en italien, c'est de ne pas être pris au sérieux parce qu'on écrit dans une langue non noble. Et donc, si on doit défendre un sujet vraiment important qui nous tient à cœur, la codification de l'époque veut qu'on l'écrive en latin. C'est pour cette raison, quand il écrit le Convivio en italien, il commence tout le début du Convivio, est une longue excuse pour expliquer pourquoi il l'écrit en italien. Pourquoi il dit que son livre est fait d'orge et non de froment? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé un langage plus illustre que son italien pour écrire de la philosophie? Donc c'est un très gros problème. Il est obligé de se justifier très longuement dans le Convivio. Donc le sujet étant important, le sujet de la langue pour lui étant absolument central, il faut essayer de défendre cette idée de vernaculaire au mieux et donc le faire en latin.
Et oui. Donc, c'est un texte absolument extraordinaire, hein, cette éloquence en langue vulgaire. Et il agit en linguiste. Il reprend le mythe de la tour de Babel. Il s'intéresse à la proximité entre la langue d'oïl, la langue d'oc, l'italien, entre les divers dialectes italiens. Et même, il fait plus que ça. Et alors, à un moment, il dit même quelque chose qui m'a stupéfié. Il dit que l'hébreu n'est pas la langue d'originaire parfaite, comme on le croyait, comme on l'a dit jusqu'au 19e siècle, n'est-ce pas? Il dit que l'hébreu est, pour finir, une langue comme les autres. Donc, je me suis dit, mais est-ce que la pensée proprement linguistique de Dante, qui signifie là un renouveau et une liberté assez fondamentale, est-ce que ça a un peu flirté avec l'hérésie?
Alors, est-ce que c'est...
Pas sur ce point-là, peut-être.
Voilà, sur ce point-là, c'est pas véritablement quelque chose qui relèverait de l'hérésie. Simplement, dans le De Vulgari Eloquentia, Dante considère encore que c'est l'hébreu qui est la langue donnée. C'est dans la Divine Comédie où il dit...
Ah, je me trompe alors.
C'est dans la Divine Comédie où il va changer complètement sa doctrine. C'est-à-dire qu'il va rester dans une position finalement tout d'abord assez classique en disant que Dieu a donné à Adam une langue, un idiome déjà forgé, c'est l'hébreu. Et puis effectivement, quand il rencontre Adam au paradis, Adam va lui dire que Dieu ne lui a pas donné un idiome, il lui a donné finalement la capacité de parler.
Oui, c'est ça.
Voilà, et c'est là où on a effectivement l'idée que l'hébreu n'est plus une langue plus noble que les autres. Donc il y a des langues, la question de la langue est très compliquée chez Dante, évidemment.
Oui, c'est...
Parce qu'il y a plusieurs manières d'envisager la langue. Pour lui, par exemple, une langue comme, mettons, l'hébreu, mais aussi le latin ou le grec, qu'il ne pratique pas, mais bon, dont il peut avoir la théorie, sont des langues qui ont été utilisées par des grands auteurs, qui les ont donc forgées, qui en ont structuré une grammaire extraordinairement subtile, qui a formé la rhétorique, etc. Donc c'est des langues qui sont achevées. Donc c'est des langues qui structurellement permettent de dire des choses de la manière la plus pure qui soit. Donc d'une certaine manière, elles ont une très grande noblesse. Ça ne veut pas dire que ce sont des langues divines. Ça veut dire qu'elles sont très bien structurées. On a pu croire que c'était des langues divines à cause de ça. Mais finalement, ce qu'il faut faire maintenant, c'est hisser notre propre vulgaire, notre propre vernaculaire, à la hauteur de ces langues très fortement structurées, grammaticalisées, perfectionnées. D'où le rêve de Dante, finalement, c'est de hisser l'italien à la noblesse que pouvait avoir le latin ou même l'hébreu, parce qu'elle peut le faire. Parce que si l'hébreu n'est plus la langue originale, alors n'importe quelle langue peut avoir la noblesse la plus haute. Et n'importe quelle langue peut atteindre une dignité qui serait, sinon absolue, du moins la plus haute perfection dont elle est capable. Ce qui pour lui est très important, puisqu'il va le dire dans le Convivio. La langue, c'est quelque chose qui est, il appelle ça le parlar materno, qui est le parler maternel. Mais pour lui, maternel, c'est celui qui m'a materné. Il dit « la langue est la cause de mon être ». C'est-à-dire que quand je parle, je suis parce que je parle de cette manière. Et donc, pour lui, la langue n'est pas juste un moyen de communication.
Non, pas du tout. Non.
C'est un moyen d'être.
Ah, oui, c'est un moyen d'être. Et puis, c'est une source du monde politique, enfin, de l'association des hommes entre eux. Il y a
sûr.
Un projet politique et pédagogique, même, presque.
Oui, c'est-à-dire que la langue, c'est, disons que c'est le moyen de communication, mais au sens très fort de
très
la communication.
Fort du terme, oui.
C'est-à-dire, c'est pas juste un
c'est
émetteur
pas,
et un récepteur.
C'est...
Voilà, c'est mettre en commun. La communication, avant tout, c'est mettre en commun. C'est la langue de la communauté, c'est la langue de la famille, c'est la langue du moi, c'est comme ça que mon moi peut passer dans, disons, l'espace commun, c'est grâce à la langue. Parce qu'en réalité, je n'existe que par ma langue. Tout ce que je suis indépendamment de ce que j'exprime, bien finalement, n'est pas véritablement connu de l'extérieur.
Mais oui.
Ce que je suis, c'est ce que je dis. C'est ça, finalement, que nous dit Dante aussi, c'est-à-dire que l'intimor meo, ce que Dieu seul voit, etc., c'est bien beau, mais c'est plus ça qui est véritablement l'important pour un homme comme Dante, et on est sorti, disons, d'une vision peut-être plus ancienne, c'est-à-dire que ce qui est important, ça va être de communiquer ce que l'on est, ça va être véritablement de mettre en commun, et cette idée de commune, pour lui, est quelque chose
ah
de...
Ah oui, c'est très sensible.
C'est très important, même si c'est un penseur plutôt de l'Empire, il y a pour lui une espèce d'héritage communal, et il se désole que les communes n'aient pas atteint finalement cette possibilité du commun. Il y a toute une réflexion sur la vie en commun à l'époque à Florence. D'autres penseurs que Dante a pu fréquenter ou qui sont des auteurs qui enseignaient à l'époque où Dante faisait ses premières armes philosophiques à Florence et qui sont des auteurs qui vont tenter de penser la question du commun, du bien commun, de la communauté, qui est quelque chose de très très sensible et très très important dans cette Italie, à la charnière entre le XIIIe et le XIVe, enfin, Italie du Nord, à la charnière entre le XIIIe et le XIVe siècle. C'est une zone dans laquelle la réflexion politique est extraordinairement importante et très différente de ce que l'on trouve dans les grands empires ou les grandes monarchies.
Ça, on peut imaginer. Bon. Mais il y a quelque chose qui m'a absolument bouleversée, c'est cette expression de la panthère parfumée.
Oui.
C'est magnifique quand même. Bon, à partir du moment où on rencontre cette métaphore, il m'est arrivé quelque chose quand j'ai lu ça. Donc, il s'agit de la poésie. Et plusieurs fois, il dit que la poésie est l'espèce de moule dans lequel la langue se fait. Enfin, est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai mal compris ?
Non, c'est-à-dire que... Alors ça, c'est un héritage qui est très fortement... affirmé par Dante, mais qui est un héritage que l'on trouve déjà chez les troubadours qui, en tant qu'ils sont trouvères, par exemple, sont les trouveurs de la langue.
Ouais.
On trouve beaucoup de poésie de troubadours qui expliquent comment ils vont forger la langue, comment ils vont limer les mots. Comment ils se présentent comme des orfèvres de la langue, c'est-à-dire qu'ils ne chantent pas seulement l'amour. Ce faisant, ils font une langue. Et ils la font exister. Et donc, l'activité poétique, parce que justement, elle est très codifié par des systèmes métriques, par des systèmes de rimes, etc., impose justement d'avoir des structures beaucoup plus, disons, strictes et beaucoup plus organisées qu'une simple langue
triviale,
parlée ou même juste écrite de manière non littéraire, même si le mot littéraire est beaucoup plus tardif.
Nous allons entendre maintenant un passage de l'Enfer, chapitre 33, lu par Vittorio Gassman. Et dans ce passage, on en parlera après, il y a une volonté d'allitération, d'incarnation de la chose horrible qu'est l'Enfer.
La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola a capelli del capo che gli avea di retro guasto. Poi cominciò. Tu vuochi rinnovelli, disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria chi ne favelli. Ma se le mie parole esser dien seme che frutti infamia al traditor chi rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sie, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quand'io t'odo. Tu dei saper ch'io fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggieri. Or ti dirò perché i son tal vicino, che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso.
Vittorio Gassman, il est allé dans ce texte terrible, hein, qui raconte des histoires de personnages historiques, hein, Ugolino della Gherardesca, et il le rend très bien. Et il le rend d'autant mieux que c'est l'effort de Dante d'incarner la terreur, en quelque sorte. Et vous avez largement discuté sur le fait, dans votre livre, que Dante a inventé des mots. Nous n'avons pas le temps de les passer tous, mais il y en a un qui m'a frappé, qui est tras humanar, n'est-ce pas? Qui n'existe pas en italien courant, n'est-ce pas? Il s'agit de quoi, Didier Ottaviani?
Alors, Dante invente des mots. Alors, Dante a une idée de la langue, c'est-à-dire que on l'a vu avec cet extrait, dans lequel la langue doit aussi signifier par sa rythmique, par les sons qu'elle donne. Et dans le De Vulgari Eloquentia, il disait qu'il y a des mots qui sont bien peignés et des mots qui sont rêches. Et donc l'enfer se doit d'avoir des mots rêches, voire des mots hirsutes, c'est-à-dire des mots qui retentissent excessivement, qui sont durs, qui font mal à l'oreille, parce que c'est un lieu de l'horreur. Et plus on monte, ce qui est assez intéressant dans la Divine Comédie en italien, c'est que l'enfer est justement un lieu où le langage est non pas laid, mais est justement un petit peu strident et même à la l'aise. Le purgatoire est beaucoup plus souple et le paradis est extraordinairement fluide où tout d'un coup on va avoir effectivement toute une série de mots inventés pour dire des choses qui ne peuvent pas être dites traditionnellement en philosophie. Par exemple, comment toutes les choses reviennent à Dieu. C'est ce qu'il va appeler le mot inluire, par exemple. Se mettre tout en lui. Mais ça n'existe pas, évidemment. Et il y a ce fameux trasumanar. Et il dit même, ce que signifie trasumanar ne peut pas être exprimé par des mots. C'est outrepasser l'humain, c'est transhumaner, bon, on pourrait faire des néologismes équivalents en français, et qui peut avoir plusieurs significations. C'est-à-dire que d'une part, il y a la signification que l'on pourrait avoir issue de la tradition mystique, c'est-à-dire que la contemplation mystique, le moment où on arrive effectivement à ce qu'il est censé atteindre avec le trasumanar, c'est-à-dire la réalité divine, est un moment où je suis dépossédé de mon propre corps, où je sors de mon corps pour entrer dans une contemplation qui est purement spirituelle. Donc je ne suis plus un humain au sens d'une âme incorporée, je suis dans un dépassement de l'humain terrestre pour entrer dans une dimension de la vision béatifique, de la vision mystique, qui bien entendu est réservée normalement au bienheureux au paradis, que Dante, alors c'est plus ou moins hérétique, fait durant sa vie, puisqu'il va au paradis d'une certaine manière par ses propres moyens. Enfin bon, c'est quand même assez... il s'inquiète beaucoup, d'ailleurs, il dit « Qui suis-je pour faire ça? Je ne suis ni aîné ». Donc le héros mythique, ni Paul, qui était ravi au paradis directement par Dieu, donc... quelle légitimité j'ai pour faire ça? Donc c'est très spécifique.
Enfin, il y a la légitimité poétique, pour finir.
Oui, mais est-ce que ça suffit face à un théologien? Ça peut être un petit peu quand même très ambitieux.
Ça sentir le soufre.
Oui. Ça peut sentir très vite le soufre. Bon, mais ce trasumanar peut avoir aussi une autre signification. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est de voir que Dante dit justement « ce qui s'est passé, je ne peux pas le dire ». Pour quelqu'un qui ne peut pas dire, je trouve qu'il écrit quand même beaucoup. C'est-à-dire que tout le paradis dit ce qu'on ne peut pas dire. Mais parce qu'en fait, ce trasumanar, me semble-t-il, peut prendre une autre signification. C'est-à-dire le fait que, par l'acte d'écrire, je me transhumanise, je deviens quelque chose d'autre. C'est-à-dire que mon œuvre est quelque chose qui est un dépassement de moi, quelque chose qui fait que je vais plus loin que là où j'aurais pu aller dans ma simple corporéité, parce que je crée véritablement cette fois-ci quelque chose. C'est-à-dire que mon œuvre, c'est une recréation complète de moi. Lorsque je suis un poète, alors je dis je, mais bon, évidemment, c'est Dante, malheureusement, j'en suis très loin. Dante est d'une certaine manière conscient, bon, c'est péché d'orgueil aussi, mais il est conscient de faire une très grande œuvre. Il est conscient d'être... Il est très orgueilleux, hein, il le sait, quand il passe au giron des orgueilleux, il ressent la punition des orgueilleux. Mais il sait qu'il est en train de faire quelque chose de grandiose, et il sait que il n'est plus simplement l'individu Dante Alighieri, Florentin exilé. Il est le Dante.
Oui, il est le Dante.
Voilà, et il sait que c'est ça le trasumanar, c'est de passer de Dante Alighieri... au Dante.
Ah oui, bien. Donc il y a là une transmutation par l'œuvre écrite.
C'est pas... Oui, c'est quelque chose qui fait que, disons qu'il y a une activité, produire une œuvre, c'est aussi se transformer soi-même. C'est un petit peu comme Montaigne quand il dit que le livre est consubstantiel à son auteur et qu'il dit qu'il n'a pas... plus fait son livre que ce livre ne l'a fait. C'est-à-dire que Montaigne, c'est son... D'ailleurs, aujourd'hui, Dante, c'est son œuvre.
Oui.
Montaigne, c'est son œuvre.
C'est son œuvre.
C'est-à-dire que c'est tout ce qui nous reste de ces auteurs qui, une fois décédés, ne survivent que par cette œuvre. Et pourtant, ils sont là, d'une certaine manière. Ils sont là et ils sont vivants parce que quand on les lit, on parcourt avec eux. On est très proche de Dante quand on lit Dante.
On est capté.
On est capté parce qu'il revit véritablement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de possibilité de se laisser envahir par cet auteur, par son histoire, qui finalement est une histoire très humaine. L'histoire d'un exilé, l'histoire de quelqu'un qui a toujours quêté l'amour absolu et finalement ne l'a jamais atteint. Parce que Dante a été marié, il a eu des enfants, il n'en parle jamais de sa femme. C'est quand même bon, un peu...
Et où est la philosophie alors là ?
Alors, la philosophie, bah, elle est un petit peu partout. C'est-à-dire que dans la Divine Comédie, ce qui est très difficile dans la lecture de la Divine Comédie, c'est le fait que chacun, beaucoup de vers sont en fait des conclusions de démonstrations philosophiques dans lesquelles on trouve des éléments très classiques de la philosophie de l'époque, des morceaux de traités d'Avicenne, des éléments aristotéliciens, des éléments néoplatoniciens. Donc, il tisse finalement toute l'histoire de la philosophie qu'il a pu recevoir dans une œuvre poétique dans laquelle il ne remet pas les démonstrations. Donc il faut voir la philosophie comme quelque chose qu'il a compris comme ce qu'elle est véritablement, c'est-à-dire un ensemble d'outils pour réussir à me penser moi-même et à penser mon expérience humaine. Et la philosophie est devenue la matière, les concepts deviennent les outils par lesquels il peut réussir à écrire le poème, mais il en fait autre chose. C'est-à-dire que la philosophie, et je pense que là c'est l'attitude de... finalement, d'un vrai philosophe, c'est, je ne fais pas de la philosophie au sens où je vais commenter des grands auteurs ou me nourrir uniquement de leur pensée et tenter de la restituer, comme je peux faire en tant que professeur ou commentateur. Il s'agit, cette fois-ci, de voir comment la philosophie peut me transformer, comment la philosophie peut me faire advenir comme un autre, en l'intégrant, mais en même temps, en la dépassant, pour n'en plus faire un traité, mais en faire une œuvre qui ne soit pas d'apparence philosophique en tant que telle, mais qui donne la possibilité d'une multiplicité de lectures philosophiques.
Oui, dans notre conversation avant l'enregistrement, vous me disiez, il y a autant de Dante que de lecteurs, ou à peu de choses près. C'est-à-dire que on peut le lire de façon assez variable quand même, puisque moi j'ai été totalement stupéfaite de voir qu'il y avait de la philosophie. Je veux dire, je pensais avoir essentiellement de la poésie. Et très vite, on se rend compte que c'est une attitude très insuffisante pour rentrer chez Dante, quoi.
Alors bien sûr, on pourrait se dire que, disons qu'il y a plusieurs attitudes face à Dante. Soit on est un commentateur, c'est-à-dire qu'on essaye de faire une interprétation qui soit au plus juste, même si on ne peut pas avoir l'interprétation ultime. Donc il faut savoir comment on pense à son époque, qu'est-ce qu'il a pu lire, qu'il connaissait, donc quelque chose qui est très universitaire dans la lecture de Dante. Mais qui n'est pas forcément le Dante que l'on lit pour soi. Parce que le Dante que l'on lit pour soi, on peut s'extraire un petit peu de toutes ces catégories qui valent pour l'étude universitaire, mais qui sont aussi parfois un petit peu, restrictives et qui nous empêchent de voir ce que Dante a à nous dire aujourd'hui. Parce que la question, c'est de savoir pourquoi lire Dante aujourd'hui ? Pourquoi lire un auteur aussi vieux ? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à nous dire ? Bah, toute la question, c'est de savoir cette question que pose l'homme à lui-même sur sa vie, sur son expérience, sur ses réactions face aux difficultés de l'existence. Parce qu'il n'a pas eu une vie facile, Dante. Et il cherche à voir que tout ça se termine bien, c'est une comédie. Donc il faut voir ce côté positif des choses. Eh bien, on peut le transposer à notre propre expérience. On peut avoir une lecture qui, finalement, va peut-être pas atteindre le vrai Dante historique, mais va construire notre Dante, l'auteur que l'on a à son chevet, qui ne va peut-être pas être enseigné, dont on va peut-être pas parler, mais qui va nous servir à nous, comme une sorte de compagnon de voyage. Et ça, c'est le Dante que peut avoir chacun, et qui, à mon avis, est véritablement plurivoque et presque infini.
Oui, c'est donc la métaphore du chemin, elle est valable pour nous.
Il faut prendre le chemin.
Nous
c'est
devenons
ce qu'il dit.
Un pèlerin.
C'est ce qu'il dit. Il dit « Je suis le legno che cantando varca, je suis le bateau qui vogue en chantant, j'ouvre un sillage et il faut me suivre. » Mais il faut faire le chemin.
Oui, il faut faire le chemin.
Il faut faire le chemin. C'est-à-dire que lire la Divine Comédie, ce n'est pas juste lire un texte. C'est justement le digérer, c'est le transformer, et c'est s'ouvrir à ce texte et en faire quelque chose pour soi aujourd'hui. Et pas seulement lire ça comme le vestige d'un passé.
Eh bien, je souhaite, mes chers auditeurs, que vous puissiez le faire. Et je vous remercie du fond du cœur, Didier Ottaviani,
merci
de nous
vous.
Avoir rendu possible l'accès à Dante par votre livre et par cette discussion.
Merci.
Sera le 26 septembre. Mon invitée sera Annie Montaud, traductrice de romans contemporains écrits en langue d'Inde du Nord, en hindi. Requiem pour un autre temps par Krishna Baldev Vaid et Mai, une femme effacée, de Kitanjali Shri. Roman récemment paru en langue française. Nous introduirons donc un peu les langues indiennes et nous aurons affaire cette fois-ci à la modernité. Bon été, mes chers auditeurs, et au revoir.